Bien, on va commencer. Hein. Donc, nous sommes heureux d'accueillir le professeur Emmanuel Théret, qui va nous faire une conférence, débat sur le thème des migrations dans le monde. Donc, monsieur Emmanuel Théret est agrégé de philo, ancien élève de Normale Sup, et surtout, bien, anthropologue et spécialiste des peuples africains, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. On discutera tout à l'heure un peu de ce que c'est cette notion d'anthropologie et puis aussi d'une autre notion, si vous le désirez un petit peu plus complexe, la notion d'anthropologie politique. Donc, tout de suite, je donne la parole à monsieur Théret.
Ben, bonjour à tout le monde. Merci de venir m'écouter. Un mot d'abord pour vous dire à partir de quelle expérience je vais essayer de m'adresser à vous sur ce thème des migrations. En fait, à partir d'une double expérience. Comme l'a dit M. Martin, de par mon métier, j'étais chercheur en anthropologie, ce qui consiste à étudier les sociétés différentes de la nôtre, les cultures différentes de la nôtre, sur d'autres continents. Et mon travail m'a conduit pour l'essentiel en Afrique. En Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui, de façon différente, sont des pays qui sont concernés par le problème des migrations, parce que le Sénégal est un pays d'émigration vers l'Europe, et que la Côte d'Ivoire est au contraire un pays d'immigration, puisque près de 30% de la population de la Côte d'Ivoire est formée d'étrangers qui viennent des pays voisins et qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était un premier contact avec les problèmes de la migration. Et puis j'en ai eu un second. C'est qu'à partir de 1996 et des événements de l'église Saint-Bernard, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, à savoir le fait que l'église Saint-Bernard avait été occupée par 300 immigrés sans papiers maliens, qui ensuite en avaient été expulsés manu militari par la police française. Bien, à partir de ces événements-là, je me suis investi dans le mouvement de défense des sans-papiers, notamment en participant à un collectif de sans-papiers parisiens, et qui était très intéressant parce que c'était un collectif complètement multinational. Nous avions plus de 35 nationalités représentées à l'intérieur de ce collectif, qui comptait, selon les périodes, entre 1000 et 2000 membres. Nous avions un bon contingent de Chinois, nous avions des Turcs, nous avions bien entendu des Africains et des Maghrébins de tous les pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Nous avions des Philippins, nous avions même des Haïtiens pour que les cinq parties du monde soient représentées. Et ça a été une grande expérience pour moi et pour ceux qui étaient avec moi de voir comment ces gens qui étaient de cultures très différentes, qui parlaient des langues différentes, qui avaient des expériences extrêmement différentes, étaient quand même capables de s'associer, de travailler ensemble et de travailler ensemble de façon efficace, puisque en quelques années, la quasi-totalité des membres de ce collectif a fini par obtenir ses papiers. Alors voilà les deux expériences à partir desquelles je vais vous parler. Le sujet des migrations, c'est un énorme sujet, bien entendu, et qui nécessiterait beaucoup de conférences. Pour celle d'aujourd'hui, je vais essayer de m'en tenir à étudier avec vous quatre idées reçues sur l'immigration et à essayer de voir quelle est la réalité qui se cache derrière ces idées. Première idée qu'on entend souvent, l'immigration dans le monde, c'est un phénomène non pas marginal, mais disons secondaire, et qu'on peut régler avec des mesures administratives et policières, en contrôlant les frontières, en mettant en place des systèmes de visas qui permettent de trier ceux qu'on va recevoir et ceux qu'on va refuser, en mettant en place des systèmes pour poursuivre les gens qui sont sans papier et pour les renvoyer chez eux, eh bien, à coup de mesures administratives et policières, nous dit-on, on peut régler ce problème. Je pense que c'est une idée fausse et j'essayerai d'expliquer pourquoi. Alors, deuxième idée, qui est également une idée très courante, on nous dit, mais bien sûr, il faut mettre en place ces mesures de contrôle, ces mesures administratives, policières, parce que si on ne les mettait pas en place, Eh bien, alors vous connaissez les expressions, vous avez sûrement entendu, ça serait le raz-de-marée, ça serait l'invasion, ça serait le déferlement, tous les pays du Sud viendraient s'installer chez nous et ça mettrait gravement en cause tous nos équilibres économiques, politiques, culturels, etc., etc. Il y a une troisième idée qui est également extrêmement courante et qui consiste à dire, en période de croissance, on peut accepter l'arrivée de nouveaux migrants, mais par contre, en période de crise, en période de difficultés économiques, en période de chômage, eh bien, on ne peut pas accueillir de nouveaux arrivants parce que déjà le chômage sévit et que si on accueillait de nouveaux arrivants, eh bien, ça ne pourrait qu'aggraver ce chômage. Et puis, dernière idée qui est également très courante, consiste à dire, ben, finalement, pour régler le problème de la migration, il n'y a qu'une seule solution, c'est de développer les pays dont partent les migrants de telle façon qu'ils n'aient plus, ils ne soient plus contraints à partir et qu'ils puissent s'installer chez eux, vivre et travailler chez eux. Et là aussi, nous verrons que cette idée-là est une idée beaucoup trop simple et qui ne s'applique pas exactement à la réalité. Ben, je vais reprendre ces quatre idées les unes après les autres pour essayer de montrer que sous des apparences de bon sens, sous des apparences d'évidence, en réalité, bien les choses sont beaucoup plus compliquées que cela et beaucoup de ces idées qui sont évidentes en apparence sont en réalité des idées fausses qui reposent soit sur des fantasmes, soit sur des erreurs d'analyse. Alors, première idée, la migration dans le monde d'aujourd'hui, c'est un phénomène non pas marginal mais secondaire, et que par conséquent, on peut régler ce problème à coup de mesures administratives et policières. Ben, je crois que, énoncé sous cette forme, cette idée-là sous-estime considérablement, minimise considérablement ce qu'est la réalité de la migration dans le monde d'aujourd'hui. Alors, premier point, je pense qu'il faut quand même que nous nous souvenions tous que la migration, c'est un phénomène extrêmement ancien. C'est un phénomène qui est pratiquement contemporain de toute l'histoire du monde. Bon, si le professeur Coppens a raison, qui nous dit que l'espèce humaine, l'Homo sapiens, est né au Kenya, c'est-à-dire en Afrique de l'Est, quelque part dans la vallée du fleuve Homo, et que c'est à partir de ce foyer initial qui s'est répandu sur la planète entière, eh bien, ça veut bien dire que la migration, elle est au point de départ même de l'histoire du monde et que, de ce point de vue, il est juste de dire que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, non pas les petits-enfants, mais en tout cas les arrière-petits-enfants de migrants. Bon, sans même remonter aussi haut, un certain nombre de grands phénomènes qui sont étudiés dans l'histoire, sous des noms divers, sont en réalité des phénomènes de migration. Prenez par exemple ce qu'on appelle les grandes invasions. Les grandes invasions qui, venant de l'Est, atteignent notre pays et l'Europe vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Eh bien, il s'agit d'un vaste mouvement de migration, de gens qui quittent ce qui est aujourd'hui la Russie ou l'Asie pour venir s'installer en Europe. Et ça porte sur des centaines de milliers d'individus. Prenez ce qu'on appelle la conquête arabe. La conquête arabe, eh bien, c'est une conquête, mais c'est aussi un vaste phénomène de migration des gens qui vont quitter l'Arabie pour venir s'installer au Maghreb, en Espagne, etc., etc. Au XVIe siècle, c'est l'arrivée dans le Nouveau Monde. L'arrivée dans le Nouveau Monde de gens qui sont partis d'Europe et qui vont peupler le Nouveau Monde. Et là aussi, c'est un grand phénomène de migration. Autrement dit, tout au long de notre histoire, il y a eu des migrations. Il y a eu des migrations. Les points de départ ont changé, les points d'arrivée ont changé, mais il y a eu des migrations et on peut ajouter que toutes les tentatives qui ont été faites à un moment donné pour essayer d'arrêter ces migrations, de les endiguer, toutes ces tentatives ont toujours fini par échouer. Je prendrai deux exemples. Premier exemple, ce qu'on appelle le limes romain, c'est-à-dire la frontière que les Romains avaient essayé de construire sur le Rhin et sur le Danube pour empêcher qu'on appelait les barbares d'arriver dans l'Empire romain, eh bien, le limes romain, il a été contourné et ensuite il a été ébréché. Et de la même façon, la célèbre grande muraille de Chine que les empereurs de Chine avaient bâtie au nord de leur empire, pour essayer d'empêcher les Mandchous, les Tartars, etc., de déferler sur la Chine, eh bien, elle a connu le même sort. Elle a été contournée d'abord et elle a été ébréchée ensuite. Jusqu'à présent, en tout cas, toutes les tentatives pour arrêter l'immigration ont été des tentatives vaines. Alors, il faut réfléchir là-dessus un instant et se rappeler qu'en réalité, la migration, ça n'est que la forme moderne, contemporaine, de ce qui est en réalité probablement la plus ancienne des libertés humaines, le droit le plus ancien des hommes, à savoir la liberté d'aller et venir. Le fait de pouvoir se déplacer comme on veut et de pouvoir changer de résidence si on le souhaite, la liberté d'aller et venir. Il faut bien voir que la liberté d'aller et venir, c'est la plus ancienne des libertés humaines. C'est la plus ancienne des libertés humaines. Elle a existé bien avant la liberté de la presse, bien avant la liberté d'association, bien avant toutes ces libertés-là, à tel point que pendant toute une partie de l'histoire du monde, eh bien, ça a été la définition même de la liberté. Un esclave n'était pas libre parce qu'il n'avait pas le droit de quitter le domicile de son maître. Et un serf au Moyen-Âge n'était pas libre parce qu'il n'avait pas le droit de quitter le domaine de son seigneur. Et l'affranchissement des uns et des autres, leur accession à la liberté, se traduisait d'abord par le fait qu'ils retrouvaient cette liberté d'aller et venir. De sorte que chez tous les migrants d'aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés personnellement, l'idée est profondément ancrée que la liberté d'aller et venir, et parmi lesquels la liberté d'émigrer, est un droit en quelque sorte fondamental de la personne humaine, que personne n'est habilité à leur confisquer, qui fait partie des droits essentiels, des droits de ce qu'on appelle les droits de l'homme, tout simplement, et que personne n'est habilité à leur confisquer ou à leur retirer. Ça, c'est un point extrêmement important qui permet de comprendre la permanence de ce système d'immigration. Alors, en second lieu, il faut bien prendre la mesure du fait que la migration, elle est inscrite au cœur même de notre système économique et social. Appelons-le économie de marché, appelons-le capitalisme, peu importe. De toute façon, ce système économique et social est un système qui est bâti sur la liberté de circulation. Liberté de circulation des capitaux, et celle-là, elle est parfaitement réalisée. Liberté de circulation des marchandises, celle-là, elle est très largement réalisée aussi. Maintenant, les marchandises circulent librement. Mais elle est aussi, au moins en théorie, fondée sur la liberté de circulation du travail et des travailleurs, la liberté de déplacement de ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Alors celle-là, elle n'est pas complètement réalisée, vous vous en doutez bien, et il y a en particulier un obstacle important qui s'oppose à cette liberté de déplacement, c'est l'existence des frontières nationales et des contrôles qui s'exercent aux frontières nationales pour empêcher les gens d'aller et venir et de circuler comme ils veulent. Mais si on prend la logique même du système capitaliste ou de l'économie de marché, on voit que ces obstacles, les frontières nationales, sont en quelque sorte des obstacles artificiels ou contre-nature par rapport à la logique même du système. Et la meilleure preuve, on peut la trouver dans deux faits. D'abord, le fait que la liberté de circulation du travail, même si elle ne se développe pas au même rythme que la liberté de circulation des marchandises et des capitaux, elle se développe quand même. Elle se développe quand même, et depuis deux siècles, elle a considérablement progressé. Dans la France, antérieure à la Révolution française, les travailleurs ne pouvaient même pas circuler librement d'une province à l'autre. Il y avait des systèmes de passeport, il y avait des systèmes de contrôle, et leur circulation à travers le territoire national était soumise à autorisation. Avec la Révolution française, ces obstacles-là disparaissent et désormais, la France est un marché du travail unique dans lequel les gens peuvent se déplacer à loisir. À partir de 1945, nous voyons un second marché du travail se constituer, doucement, mais pratiquement il est venu à son terme maintenant. Le continent européen est maintenant un marché du travail pratiquement unique où la circulation des travailleurs d'un pays à l'autre est largement possible. Il n'y a aucune raison de penser qu'on va s'en tenir là, et que l'élargissement ne se poursuivra pas. Puis un deuxième argument qui montre bien que la migration fait partie du système, c'est le suivant. Bon, si on refait l'histoire des migrations en France, par exemple, on constate qu'il y a un groupe social qui a toujours été en faveur de la liberté de circulation des travailleurs et du fait que les travailleurs étrangers puissent venir en France librement. Ce groupe social, c'est le patronat. Le patronat, à toutes les époques, a toujours été d'accord sur la libre circulation. Alors, il faut bien préciser, le patronat était d'accord sur la libre circulation, il n'était pas d'accord sur l'égalité des droits entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux. Parce que la libre circulation, à ses yeux, ne présentait d'intérêt que si on pouvait jouer sur la différence entre nationaux et étrangers, payer moins cher les étrangers, de façon à faire baisser le salaire des nationaux, etc. etc. Donc il n'était pas d'accord sur l'égalité des droits. Mais il était d'accord sur la libre circulation, où il voyait effectivement un moyen de faire baisser à la fois les salaires et les statuts, les protections légales dont pouvaient bénéficier les étrangers. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Récemment encore, quand notre ministre de l'Intérieur, M. Guéant, a annoncé qu'il voulait faire baisser l'immigration de travail en France, réduire de 20 000 le nombre des permis délivrés, la première personne qui est montée au créneau pour dire « c'est une bêtise, il ne faut pas faire ça », c'est Mme Parisot, la présidente du MEDEF. Elle nous a tous devancés, d'ailleurs, parce qu'elle a eu de meilleurs réflexes que nous, mais c'est la première personne qui a protesté, c'était elle. Alors, la migration est donc inscrite au cœur même de notre système économique et social, et il faut bien dire que la mondialisation accroît encore, facilite encore le rôle de la migration et encourage encore le rôle de la migration. Elle le facilite de deux manières différentes. Première façon, la mondialisation, comme vous le savez, fait baisser le coût des transports. Il est beaucoup plus économique de se déplacer dans le monde d'aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 20 ou 30 ans. La mondialisation fait circuler l'information sur le monde entier et les gens savent de mieux en mieux qu'est-ce qu'ils vont trouver s'ils se rendent dans tel ou tel pays, peuvent faire des comparaisons, etc., etc. Alors ça, c'est un premier aspect qui est peut-être un peu plus compliqué. Mais disons que la mondialisation, comme vous le savez, bon, c'est le capital financier, l'argent, qui prend le contrôle de l'économie. Et pourquoi est-ce que l'argent prend le contrôle de l'économie? Pourquoi est-ce que le capital financier s'empare des leviers de commande de l'économie? Eh bien, il le fait en fonction de sa mobilité. C'est parce qu'il peut se déplacer d'un pays à l'autre grâce à l'électronique à la vitesse de la lumière qu'il peut choisir les opportunités, qu'il peut abandonner les terrains difficiles, qu'il peut se transférer comme il veut. Il bénéficie des avantages de la mobilité qui, de tout temps, ont été, par exemple, les avantages des nomades par rapport aux sédentaires. Et au fond, la migration de travail, c'est un effort pour, en face de la mobilité des capitaux, de la mobilité de l'argent, bâtir une mobilité des travailleurs qui leur permette de bénéficier des mêmes atouts. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, aux frontières de notre continent européen, mais dans bien d'autres endroits du monde aussi, j'y reviendrai dans un instant, bon, une espèce de... Bon, le mot de guerre était peut-être un peu lourd, mais enfin, une espèce de combat extrêmement dur est mené contre ce qui s'appelle la migration illégale, c'est-à-dire les efforts que font des gens qui viennent d'autres continents, pour l'essentiel du continent africain en ce qui concerne l'Europe, mais aussi des pays de l'Est, pour essayer de rentrer sur le territoire européen. Il y a une agence qui s'appelle Frontex, qui est équipée d'hélicoptères, de bateaux de guerre, de vedettes, de radars, de la technologie la plus moderne, pour faire face à ces migrations. Alors l'agence Frontex est effectivement relativement efficace dans la mesure où cette guerre, le mot de guerre n'est pas simplement une métaphore. Je veux dire, il y a des morts nombreux. On calcule que depuis une quinzaine d'années, quelque chose comme 15 000 personnes sont mortes noyées en Méditerranée ou aux îles Canaries en essayant veut pénétrer sur le continent européen. 15 000 personnes, c'est beaucoup. Il faut se rappeler que, en l'espace de 30 ans, le mur de Berlin n'avait fait que 400 victimes. Donc, ce mur-là, il est beaucoup plus meurtrier. Et on se dit, mais au fond, c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. L'Union européenne, avec tous ses moyens militaires déployés, en face de ces pauvres malheureux qui essayent de traverser dans des barques pourries ou de franchir les murs de Ceuta, de Melilla au Maroc, etc., la bataille est perdue d'avance. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On constate qu'en réalité, malgré le déploiement de moyens considérables, eh bien, la bataille n'est pas perdue d'avance pour les migrants. Et si beaucoup de migrants risquent et perdent leur vie dans le passage, un nombre bien plus considérable encore réussit à passer. On le sait, bien qu'il y ait guère de statistiques précises sur ce domaine, on le sait tout simplement en prenant note de deux chiffres. En France, par exemple, les autorités officielles nous disent qu'il y a en France 400 000 migrants irréguliers. Ça vaut ce que ça vaut, parce que par définition, un irrégulier, il se fait pas recenser, donc c'est pas facile à compter. C'est une évaluation. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le chiffre absolu, parce qu'il doit être vrai à plus ou moins 50 000 ou 100 000. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce chiffre de 400 000, c'est le même depuis pratiquement 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a décidé d'arrêter la libre circulation, d'établir les contrôles aux frontières, un peu plus de 30 ans, ça date des années qui ont suivi le choc pétrolier de 1975, frontières fermées, etc., enfin, contrôlées. Depuis 30 ans, 400 000. Alors ça, c'est assez bizarre, parce que pendant cette période-là, 30 à 35 ans, d'une part, il y a eu des expulsions, selon les années, 15, 20 000, aujourd'hui, sont encore davantage 25 000, donc des gens qu'on a renvoyés chez eux. Et puis d'autre part, il y a eu des régularisations, des gens qui étaient des migrants illégaux et à quels on a fini par donner des papiers. Il y en a eu deux importantes, l'une en 81 avec 150 000 personnes et l'autre en 97 avec à peu près 90 000 personnes. Et bien, malgré ça, malgré les expulsions, malgré les régularisations, on est toujours au même tarif de 400 000. Alors, ça signifie au moins une chose déjà, ça en signifie beaucoup d'autres, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça signifie au moins une chose déjà, c'est que s'il y en a tellement qui ont été expulsés et d'autres qui ont été régularisés et qu'on est toujours à 400 000, ben ça veut dire qu'il en est arrivé autant pour combler les manques. Et que, par conséquent, l'entrée, elle, se continue. Et concrètement, tous ceux qui travaillent et qui ont travaillé avec des collectifs de sans-papiers savent que dans ces collectifs, on trouve des gens qui sont là depuis 20 ans, qui ont réussi à passer entre les gouttes, qui n'ont jamais été contrôlés, en tout cas qui ont échappé aux conséquences graves des contrôles. Mais on trouve aussi des gens qui sont arrivés l'année dernière, il y a deux ans, et qui continuent à arriver. Autrement dit, du point de vue de la fermeture, c'est un échec. De la même façon, au niveau du continent européen, les statistiques de la communauté européenne nous disent qu'il y a, d'une part, de l'ordre de... une fourchette, alors elle est très large, de 4 à 8 millions d'immigrants irréguliers sur le territoire de l'Europe. Et ils nous disent aussi qu'il en rentre en moyenne 400 000 par an. Alors vous voyez qu'une frontière qui est traversée de façon illégale par 400 000 personnes chaque année, ce n'est pas une frontière tout à fait étanche. Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, les migrants y réussissent finalement, dans leur majorité, un jour ou l'autre, par passer. Et ce n'est pas très étonnant quand on voit à qui on a affaire. Bon, j'en ai rencontré beaucoup. Et ce qui est caractéristique de la personne qui se lance dans cette aventure qu'est la migration illégale, eh bien, c'est une très grande dose de courage, c'est une très grande dose de détermination, c'est une très grande dose d'intelligence pour trouver les failles, exploiter les faiblesses du système de contrôle, etc., etc. Et on a affaire à des gens, quand ils arrivent, à mon sens, d'une certaine manière, on devrait les décorer pour l'exploit qu'ils ont fourni, parce que c'est une performance extraordinaire que de passer à travers tout ça. Alors, n'exagérons rien, je ne pense pas qu'on les décorera. Mais enfin, je veux dire qu'on a affaire à des gens extrêmement résolus et de ce point de vue-là, c'est un atout pour eux tout à fait important. Alors, ayant souvent l'occasion d'intervenir sur ce genre de sujet, j'ai eu, J'ai inventé la comparaison suivante qui va vous faire peut-être mieux comprendre ce dont il s'agit que les explications que je viens de donner. C'est une parabole. Imaginez un éléphant qui décide d'interdire son territoire aux fourmis. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'éléphant ? Il va tracer un chemin de ronde autour de son territoire, et puis il va le parcourir, ce chemin de ronde, avec ses grosses pattes, et à chaque tour, il va écraser des centaines de fourmis. Ah oui, seulement les colonnes de fourmis, elles ne se déplacent pas par centaines, elles se déplacent par milliers, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, que l'éléphant le veuille ou non, eh bien, son territoire va être envahi, et par conséquent, finalement, ce sont les fourmis qui auront gagné la bataille contre l'éléphant, ce qui, après tout, n'est que la répétition de l'épisode de David contre Goliath et de bien d'autres épisodes dans l'histoire. Donc, de ce point de vue-là, cette fable, si vous voulez, illustre bien que le rapport de force, en réalité, n'est pas celui qu'on croit, et il illustre un autre point qui est le suivant. Tout à l'heure, je vous ai dit, les gens qui émigrent ont profondément la conviction qu'en émigrant, ils exercent un droit qui est un droit fondamental de la personne et qu'on ne peut pas leur enlever. Ça entraîne une conséquence très importante, c'est comment est prise la décision de migrer. Moi, j'ai vu les choses fonctionner en Afrique. La décision, elle peut être prise par l'individu. L'individu dit, moi, j'en ai marre, j'ai pas d'avenir ici, je m'en vais, je tente ma chance ailleurs. La décision, elle peut être prise par la famille au sens large, parce que, bien entendu, pour émigrer, il faut quand même de l'argent, il faut payer les passeurs, il faut payer les transports, etc. Et donc, on mobilise les ressources de la famille, et la famille vous donne un coup de main pour rassembler cet argent, et vous lui rendrez ensuite, si vous arrivez à bon port. Dans certains cas, au Sénégal, c'était le cas des migrants qui partaient de la vallée du fleuve Sénégal. C'était d'ailleurs très intéressant. C'était le village qui gérait la migration, c'est-à-dire l'assemblée du village qui désignait quels sont les jeunes qui allaient partir, combien de temps ils allaient rester, où ils allaient aller, au bout de combien de temps ils allaient revenir, comment on allait les remplacer. Il y avait un système de noria très astucieux qui était géré au niveau du village. Mais ce qu'on n'a jamais vu nulle part, c'est des migrants qui iraient demander à leur gouvernement l'autorisation de migrer, ou au gouvernement du pays d'accueil, l'autorisation d'y pénétrer. Je veux dire, bien entendu, si un migrant peut obtenir un visa, et c'est de plus en plus difficile, ben, s'il veut l'obtenir, il est content, ça lui épargne beaucoup de difficultés, de troubles, d'argent, etc. Mais comme il le peut obtenir de moins en moins, eh bien, il va se débrouiller et il va le faire par ses propres moyens. Et jamais il ne demandera à son propre pays l'autorisation de migrer ou de ne pas migrer. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça veut dire qu'en réalité, on voit des discussions entre les États pour régler le problème des migrations, etc. Alors, les envoyés français se rendent en Afrique pour passer des accords, essayer des contreparties. Tout ça ne sert à rien, parce qu'en réalité, les États ont extrêmement peu de prise sur le processus de la migration. Les gens considèrent que la migration, c'est leur problème, que c'est leur droit, et que les États n'ont pas à s'en mêler, et de fait, l'intervention des États, elle est extrêmement vaine, extrêmement limitée. Elle relève largement, en réalité, de l'auto-illusion des politiques. Alors bref, et j'en termine sur cette première idée, prétendre qu'on va régler le problème des migrations à coup de fermeture des frontières, de contrôle policier, de contrôle administratif, etc., à mon avis, c'est une illusion, et ça sous-estime considérablement le problème des migrations. Et il serait beaucoup plus sage et beaucoup plus réaliste de prendre acte de ce problème, de prendre acte de ses dimensions exactes, de prendre acte du fait que c'est une caractéristique fondamentale de notre monde d'aujourd'hui, et par conséquent, d'essayer de s'organiser avec, au mieux, des intérêts et des uns et des autres. Alors, deuxième idée très répandue, c'est l'idée que si on ne contrôlait pas, si on ne fermait pas les frontières, etc., ça serait l'invasion. Ça serait le raz-de-marée. Vous avez sûrement tous entendu ce discours-là qui traîne dans les discours de beaucoup de nos hommes politiques et dans beaucoup de nos journalistes et des médias. Bon, il faut quand même donner quelques chiffres pour prendre la dimension exacte du problème. L'ONU définit le migrant comme quelqu'un qui passe plus d'un an hors de chez lui. vaut ce que ça vaut, mais enfin, prenons ça, puisque c'est la définition officielle. Alors, sur cette base-là, l'ONU dénombre dans le monde, à l'heure actuelle, quelque chose comme 200 millions de personnes qui sont en situation de migration. 200 millions, ça représente à peu près 3% de la population mondiale. Mais le point le plus intéressant, c'est le suivant. C'est que, bien entendu, la très grande majorité de ces 200 millions de personnes sont originaires d'un pays pauvre et partent d'un pays pauvre. Mais moins de la moitié d'entre eux se rend d'un pays pauvre vers un pays riche. Très précisément, 45% d'entre eux. La majorité d'entre eux partent d'un pays pauvre vers un pays un peu moins pauvre. Et par exemple, il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle, en Iran, quelque chose comme 3 millions de réfugiés afghans. Et qu'il y a en Iran, au Pakistan, également 2 millions de réfugiés afghans. Il faut savoir que la plupart des migrants du Mali, du Niger, du Burkina se rendent en Côte d'Ivoire et au Ghana et non pas vers l'Europe. Autrement dit, si tant est, et je ne le crois pas, mais si on admettait un instant que l'immigration, ça soit une charge, en tout cas, il faut bien prendre conscience du fait que cette charge, elle pèse sur les pays pauvres, à l'heure actuelle, davantage que sur les pays riches. Ça, c'est une première remarque. Alors, deuxième remarque, on nous dit, ah, mais si on relâchait les contrôles, invasion, raz-de-marée, inondation, enfin, tout ce que vous connaissez ce vocabulaire. Cette idée du raz-de-marée, qui est plus un fantasme qu'une idée, repose sur une analyse précise qui est de dire la raison principale de la migration, la cause principale de la migration, c'est la misère, la pauvreté au sens économique du terme. C'est-à-dire la différence de niveau de vie entre les pays pauvres et les pays riches. Et c'est ça qui fait partir les gens. Alors bien entendu, ce n'est pas une idée qui est complètement fausse, ça joue un rôle, mais ça n'est pas du tout uniquement ça qui intervient. Et je pense même, et je vais essayer de vous expliquer, que ça ne joue pas le rôle principal. En effet, si on admettait cette idée, c'est la misère qui fait partir les gens, la misère au sens économique du terme. Alors, la migration devrait partir de tous les pays pauvres, quels qu'ils soient, et de façon uniforme, et la migration, d'une certaine façon, elle devrait être, si je puis dire, proportionnelle à la pauvreté. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous partez. Et moins vous êtes pauvre, eh bien, plus vous avez tendance à rester. Or, si vous observez la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. La migration ne part pas du tout de manière uniforme de tous les pays pauvres. Elle part de certaines régions bien localisées, qui sont des régions qui ont des traditions de migration, et qui sont, en règle générale, des pays pauvres, mais pas du tout plus pauvres que leurs voisines, qui, elles, ne partent pas. Deux exemples. Pratiquement les deux tiers de la migration africaine en France vient d'une seule région de l'Afrique, qui est très bien localisée, qui est la région au confluent de la haute vallée du fleuve Sénégal et de la haute vallée du fleuve Niger. Et à la rencontre qu'on appelle les quatre frontières, c'est-à-dire il y a quatre pays dont les frontières se touchent à cet endroit-là, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Alors évidemment, si on répartit les gens par nationalité, on ne s'aperçoit pas de cette concentration, puisqu'ils sont répartis sur quatre nationalités. Mais en réalité, si l'anthropologue arrive sur le terrain, il voit très bien que ces gens viennent de deux populations précises, tout couleur et saracolé, et qu'à elles seules, ces deux populations fournissent pratiquement les deux tiers de la migration africaine en France. Bon, c'est une région qui est pauvre, mais elle n'est pas plus pauvre que les autres régions du Mali ou celles du Burkina, etc. Or, c'est celle-là qui part, et pas les autres. Je donne un deuxième exemple, puis j'en donnerai un troisième tout à l'heure. Le deuxième, c'est le suivant. Jusqu'à une date assez récente, alors c'est un peu en train de changer, mais jusqu'à une date assez récente, il y a 2 ou 3 ans, la grande majorité des migrants qui venaient de Chine populaire en France venaient non pas même seulement d'une seule province chinoise, mais d'un seul district de cette province, qui était le district de Wenzhou. Et ce district, c'est une ville importante qui se trouve au sud de Shanghai. Il avait cette caractéristique que c'était le premier à s'être ouvert au commerce international et aux relations internationales quand la Chine a rouvert ses frontières après la mort de Mao Tse-tung dans les années 1980. Donc ce n'était pas du tout un district particulièrement pauvre, ce n'était pas du tout un district particulièrement abandonné, au contraire, et c'est pourtant celui-là qui fournissait la migration. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette localisation des migrations? Ça veut dire que le facteur économique y joue, mais qu'il y a bien d'autres facteurs qui interviennent pour expliquer pourquoi les gens s'en vont. Il y a le facteur de la tradition. Si vous appartenez à une région qui a émigré depuis longtemps, et qui a en particulier émigré dans le pays où vous, vous avez l'intention d'aller, ça va vous faciliter les choses, parce que vous allez arriver dans un pays où il y a des gens qui parlent la même langue que vous, qui sont déjà installés, et qui vont faciliter votre installation. Alors la tradition, donc, joue un rôle important. Dans les deux cas que j'ai cités, Sénégal, Mali, etc., ce sont des gens qui émigraient sur le continent africain depuis toujours et qui ont commencé à émigrer vers l'Europe dès que ça a été possible. Et dans le cas des Chinois, ben, en réalité, les premiers Chinois de cette région, ils sont venus en France au moment de la guerre de 1914-18 parce qu'on a été les chercher pour travailler dans les usines de munitions, pour creuser les tranchées, pour déminer le terrain, etc., etc. La plupart d'entre eux sont repartis, mais il y en a un certain nombre qui sont restés, et après avoir s'est établi dans différents quartiers de Paris, eh bien, ils sont restés là, et ils ont accueilli les nouveaux venus à partir des années 80. Mais vous pouvez avoir des facteurs, par exemple, politiques qui interviennent, politiques au sens large. Par exemple, pour la migration chinoise, il y a un facteur de migration extrêmement important, qui est la politique du gouvernement chinois, ce qu'on appelle l'enfant unique. Vous savez qu'en Chine, pour des raisons de contrôle démographique, eh bien, normalement, un couple n'a pas le droit d'avoir plus d'un seul enfant. Et s'il y a des enfants supplémentaires, si je puis dire, eh bien, d'une part, le couple est frappé d'amende, et d'autre part, eh bien, l'enfant n'est pas du tout pris en charge par la société, du plan de santé, du vol scolaire, etc., etc. Politique de l'enfant unique. Ben, cette politique a été très, très mal supportée. En particulier, il faut bien le dire, parce que ça, c'est la tradition chinoise, quand cet enfant unique était une fille, parce que le fait d'avoir pas d'enfant masculin pour transmettre son nom, l'héritage, etc., etc., c'était un drame. Et par conséquent, il y a beaucoup de familles qui ont décidé d'émigrer à cause de cette politique de l'enfant unique et qui, arrivant en France, estimaient que désormais, elles étaient libres de procréer autant qu'elles le voulaient. Mais au-delà de ces cas particuliers, je dirais que, alors, en disant ça, je pense en particulier à l'Afrique. Ce qui fait partir les gens, ça n'est pas tellement la misère au sens économique du terme, c'est-à-dire l'écart des niveaux de vie. Moi, j'ai travaillé longuement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les paysans, à cette époque-là, plantaient du café et du cacao. Ils avaient certainement une vie dure, mais le prix du café et du cacao était en train de monter sur le marché mondial, et ils avaient la perspective, par leur travail, d'améliorer leur situation. À terme, pas tout de suite, pas dans des proportions gigantesques, enfin tout de même, l'avenir était relativement ouvert et ces gens-là ne partaient pas. Ce qui fait partir les gens, si je puis dire, ce n'est pas la misère au sens économique du terme, c'est ce que j'appellerais la désespérance. C'est-à-dire le fait de se trouver dans une situation complètement bloquée, complètement verrouillée, avec un régime autoritaire, incompétent et corrompu, eh bien, qui, en réalité, vous barre toute perspective, parce que tout ce que vous voulez faire, vous voulez monter une petite entreprise, vous voulez vous embaucher quelque part, il faut graisser la patte d'un bureaucrate quelconque, il faut se mettre bien avec un politicien quelconque, et tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça, eh bien, ils sont littéralement sans avenir. Et c'est à ce moment-là qu'ils partent. Ils partent parce qu'ils sont dans une situation désespérée. Et ça, je crois que c'est très important de le voir, et de se rappeler aussi que les régimes qui créent ces situations désespérées, les régimes corrompus, les régimes autoritaires, les régimes incompétents, eh bien, c'est dans une large mesure les gouvernements occidentaux qui les maintiennent en place pour des raisons de géopolitique, parce qu'ils ont besoin de leur voix à l'ONU, etc., etc. Donc, nous avons une responsabilité importante en la matière, et d'une certaine façon, il y a une, si je puis dire, une sorte de contradiction entre le fait de vouloir interdire la migration d'un côté et d'autre part le fait de maintenir en place des régimes qui alimentent cette migration. Autrement dit, on a une politique à cet égard qui est contradictoire et on en mesure les effets. Alors, Dernier point, j'ai dit tout à l'heure, si c'était la misère qui faisait partir les gens, eh bien, ça serait les plus pauvres qui devraient partir, les plus nombreux, puis les autres partiraient ensuite. Mais là encore, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. D'abord, première raison évidente, pour émigrer, il faut une certaine ressource financière. Et quand on n'a pas ces ressources, on ne peut pas partir, tout simplement. Et deuxième observation, les gens qui partent, ce sont les gens qui ont accumulé un certain savoir-faire, un certain métier, une certaine capacité professionnelle, et qui pensent qu'ils vont réussir à mettre en valeur cette capacité professionnelle dans le pays dans lequel ils vont arriver. Il y a une statistique extrêmement intéressante qui a été faite par le collectif des sans-papiers de Lille, qui a été un collectif très efficace, qui avait fait régulariser en 10 ans plusieurs milliers de sans-papiers. Puis ils ont fait une enquête sur qui c'était ces gens qu'ils avaient fait régulariser. Alors il y a eu plusieurs chiffres très intéressants, mais notamment celui-là, c'est que 48% des intéressés étaient, du point de vue de l'éducation, de niveau bac et au-delà. Très exactement, 25% de niveau bac et 23% bac et bac plus 1 et 23% au-delà, bac plus 2, bac plus 3, etc. Alors ça, c'était tout à fait intéressant parce que c'était des gens qui étaient petits fonctionnaires, qui étaient petits cadres, qui étaient infirmiers, qui étaient commerçants, qui étaient artisans, mais ils avaient tous un savoir-faire qui leur permettait d'espérer réussir leur installation dans le pays où ils arrivaient. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Les gens que nous voyons migrer, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas les paysans, etc. Ce sont des gens qui ont déjà un certain bagage, disons qui appartiennent aux couches inférieures ou moyennes de la classe moyenne, et qui tentent leur chance en se disant qu'avec leur détermination et leur savoir-faire, ils vont réussir. Dernier point sur lequel il faut insister. Là, j'ai énuméré les facteurs qui faisaient partir les gens de chez eux. Il faut tenir compte aussi des facteurs qui les attirent chez nous. Alors, vous savez qu'il y a une notion là qui est extrêmement répandue aussi. On dit, mais il ne faut pas attribuer de carte, il ne faut pas ouvrir les portes parce que ça fait appel d'air. Ça fait appel d'air. Si vous relâchez un peu les contrôles, eh ben, ça en fait venir d'autres davantage. En réalité, à mon sens, c'est pas la régularisation qui fait appel d'air. Parce que aujourd'hui, les migrants africains, bon, l'idée de l'Eldorado européen, ça existait peut-être il y a 50 ans, mais maintenant ils sont au fait. Depuis le temps, les informations ont circulé et ils savent que s'ils viennent en France, eh bien, ça va être dur, ça va être la galère pendant un certain temps, etc. Mais ils viennent parce qu'ils ont l'espoir qu'il y aura des opportunités et qu'ils pourront mettre à profit. Ce qui fait appel d'air en réalité, c'est l'existence dans notre pays, la France, sur l'ensemble du territoire européen, d'une offre permanente de travail illégal, et je veux dire que cette offre, elle se déploie avec, disons, la complaisance ou la complicité des pouvoirs publics. Les choses ne sont pas difficiles. Moi, tous les sans-papiers que j'ai connus m'ont toujours dit, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé du travail dans les 3 semaines qui suivaient notre arrivée. Alors, bien entendu, du travail dans des conditions infâmes. Travail illégal, c'est ce que c'est, aucune limitation de durée, aucune protection sociale, aucune protection quant à la sécurité de l'emploi, etc., etc. Bon, le travail au noir, c'est pas la joie, hein, c'est une galère épouvantable. Mais tous se disaient, dès que nous arrivons, nous aurons du travail, et comme nous sommes des gens résolus, déterminés, courageux, etc., eh bien, nous allons transformer notre situation et nous allons améliorer notre situation. Alors ça nous avait interpellés. Je peux vous expliquer comment. Ce qui nous avait interpellés en premier lieu, c'était ce chiffre de 400 000 que j'ai cité tout à l'heure. Et 400 000, toujours le même nombre depuis 1980, qui semblait indiquer que c'était des gens qui, au fond, remplissaient une certaine fonction dans notre économie. Alors ensuite, nous avons essayé de regarder où ils travaillaient, ces 400 000. Et on s'est aperçu que la très très grande majorité d'entre eux travaillaient dans 4 ou 5 secteurs bien déterminés de notre économie. Premier secteur, le plus important, bâtiment, travaux publics. Deuxième secteur, extrêmement important aussi, hôtellerie, restauration. Troisième secteur, le service à la personne, les emplois domestiques, etc., etc. Quatrième secteur, la sécurité. Cinquième secteur, le nettoyage. Et puis un secteur un peu plus particulier qui était la confection parisienne entre les mains des Chinois. Et si vous prenez les cinq secteurs que j'ai énumérés, ils ont quelque chose en commun, ces cinq secteurs, c'est qu'on ne peut pas délocaliser l'activité. Pour des raisons physiques et matérielles, vous ne pouvez pas délocaliser l'activité. Vous pouvez délocaliser un atelier de textile, vous pouvez délocaliser un atelier de mécanique, tout ça vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas délocaliser un chantier du bâtiment, tout simplement parce que le bâtiment, il faut qu'il soit là, où ensuite on en aura besoin. Vous ne pouvez pas délocaliser un restaurant, parce qu'il faut que le restaurant il soit là où se trouve la clientèle. La même chose pour le service à la personne, pour le nettoyage, pour la sécurité. Tout ça ne peut pas être délocalisé. Et alors, le travail illégal permet de réaliser ce que, à l'époque, les gens qui ont travaillé là-dessus et moi-même, nous avions appelé la délocalisation sur place. C'est-à-dire que grâce au travail illégal, grâce au travail au noir des étrangers, eh bien, ces entreprises-là peuvent trouver sur place, à leur porte, une main-d'œuvre qui est pratiquement dans les mêmes conditions de rémunération, de docilité, de statut que la main-d'œuvre extérieure des pays du tiers-monde que vont chercher les industries qui délocalisent de façon classique. La récente grève des travailleurs sans papier de la région parisienne a mis en lumière ce phénomène de façon éclatante. Vous aviez des gens, par centaines dans cette grève, qui travaillaient par exemple, non pas dans la maison Bouygues, mais chez les sous-traitants de Bouygues, et qui, pour certains depuis des années, gagnaient leur vie de cette façon. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça se sait. Et on sait qu'en réalité, le seul facteur qui module parfois le flot de la migration, et en partie de la migration irrégulière, c'est celui-là. Ou bien il y a du travail dans le bâtiment, les gens le savent, l'information circule et ils viennent, ou bien le travail diminue, et dans ce cas-là, ils ne viennent plus, ou bien ils essayent de se diriger ailleurs. Autrement dit, c'est cette offre de travailleurs, de travail illégal, qui joue ce rôle d'appel, et bien entendu, ce travail illégal, il se fait pour le plus grand profit d'un certain nombre d'entreprises, j'en ai nommé une tout à l'heure, je pourrais en nommer quelques autres, des mêmes secteurs, et c'est pour ça que la politique qui est menée actuellement, en réalité, c'est une politique assez hypocrite. Parce qu'on nous dit on veut éradiquer l'immigration illégale. On veut chasser les irréguliers. Mais si on chassait tous les irréguliers en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, il y a un certain nombre de secteurs de l'économie française qui se retrouveraient dans les plus graves difficultés. Tous ceux que j'ai cités, bâtiments, travaux publics, hôtellerie, etc. La politique actuelle, à mon avis, ne vise pas du tout à chasser les irréguliers, elle vise à en chasser suffisamment nombreux pour que les autres vivent dans la peur et par conséquent continuent d'accepter les conditions qui leur sont faites. Et même cette politique-là, eh bien, elle réussit de moins en moins parce que les gens acceptent de moins en moins les conditions qui leur sont faites. Alors, je passe plus vite sur les deux dernières questions que j'avais envisagées parce que le temps passe. Autre formule très très courante, en période de chômage, on ne peut pas accepter de nouveaux migrants. Alors ce n'est pas une idée juste pour la raison suivante. D'abord, il faut bien prendre conscience du fait qu'elle serait juste si en France il y avait un seul marché du travail. S'il y avait un seul marché du travail décloisonné et où tout le monde serait en concurrence avec tout le monde. Mais nous savons très bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe. En France, il y a plusieurs marchés du travail qui sont pratiquement séparés par des cloisons étanches et dans lesquels les gens, en réalité, ne se font pas concurrence et ne prennent pas le travail les uns des autres. Prenez par exemple le bâtiment aux travaux publics. Bon, je connais un jeune sociologue qui s'appelle Nicolas Jounin et il avait décidé de faire une enquête, de faire une recherche sur... travaille dans les chantiers du bâtiment de la région parisienne. Il a voulu se faire embaucher, ce qui était bien. Il faisait de l'observation participante. Il a voulu se faire embaucher comme manœuvre. Il n'y est pas arrivé. Il s'est fait refuser 50 fois au nom de l'argument suivant. Quand il se présentait devant un chantier, le chef de chantier lui disait « Toi, Mais un Français, mais tu ne peux pas être manœuvre du bâtiment. Les manœuvres dans le bâtiment, ce sont les Africains. Et puis les contremaîtres, ce sont les Maghrébins. Et puis les chefs de travaux, c'est les Portugais. Et puis les ingénieurs, c'est les Français. Mais il est tout à fait exclu que tu puisses t'embaucher. Et il a fini, par désespoir de cause, à travailler chez un ferrailleur, mais comme agent technique et non pas comme manœuvre. Autrement dit, le bâtiment de travaux publics, c'est très largement un secteur réservé aux travailleurs migrants. C'est la même chose dans la restauration. Le syndicat patronal de la restauration se plaint année après année du fait qu'ils ont des dizaines de milliers d'emplois non satisfaits. Mais pour une raison très simple, c'est que compte tenu des conditions de travail dans la restauration et des conditions de salaire dans la restauration, vous n'avez pas un citoyen français qui veut aller travailler dans ce secteur-là. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de recruter des travailleurs irréguliers, parce que les travailleurs irréguliers sont les seuls qui acceptent ce travail. Autrement dit, contrairement à ce qu'on nous raconte, les migrants ne prennent pas le travail des Français, ils prennent le travail que les Français ne veulent pas faire. Et c'est ça qui se passe. Et malheureusement, cette quantité de travail, elle ne disparaît pas. Et par conséquent, la migration reste un besoin important dans l'intérêt même de l'économie française. Il y a des secteurs entiers qui ne vivent, qui ne subsistent que par la migration, et certains d'entre eux même par la migration irrégulière. Alors le dernier point que je voulais mentionner, puis nous pourrons revenir tout ça dans la discussion, c'est le suivant. Développement. On nous dit, mais la seule solution du problème, eh bien, c'est de développer les pays de départ de telle façon que les gens y restent chez eux. Bien entendu, tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Mais trois observations quand même. Première observation, depuis le temps qu'on le dit, il serait temps de commencer à le faire. Je veux dire que depuis le temps qu'on dit qu'il faut aider sérieusement ces pays à se développer, il faut commencer à le faire. Or, comme vous le savez, en proportion, les crédits que la France consacre aux pays en voie de développement sont en diminution. Depuis quelques années, ils ont été pratiquement divisés par deux. Ils sont passés de 0,70 à 0,35% du PIB. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, non seulement il faut le faire, mais il faut s'abstenir de prendre des mesures qui contredisent complètement ce développement. Je pense en particulier à la discussion qui est en cours à l'heure actuelle entre la communauté européenne et les pays africains, ce qu'on appelle les accords de partenariat économique, et qui consiste à exiger des pays africains qu'ils abaissent leurs droits de douane, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Eh bien, si on fait ça, eh bien, on va ruiner définitivement les agricultures africaines. Dès aujourd'hui, le poulet breton se vend moins cher sur le marché de Dakar que le poulet local, parce que les agricultures européennes sont copieusement subventionnées, ce qui n'est pas le cas des agricultures africaines. Et une fois qu'on aura ruiné les agricultures africaines, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prendront le chemin de l'exil. Et là encore, on se trouve devant une politique qui consiste à alimenter d'un côté ce qu'on veut interdire de l'autre. Et ça n'est pas très logique. Et puis, surtout, deuxième point, tous les experts qui ont travaillé sur le développement dans toutes les parties du monde ont toujours constaté que le développement, bien loin d'arrêter la migration, au moins dans un premier temps, il la faisait progresser. Dans un premier temps qui pouvait s'étaler sur 20 ou 25 ans. Et que c'est seulement au bout de 20 ou 25 ans que les choses commençaient à se stabiliser. Alors pourquoi ? C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le développement ? C'est partir d'un système économique complètement archaïque, complètement périmé, pour aller vers un système plus moderne, plus efficace, etc. Seulement, ce passage-là, il ne se fait pas en un seul jour. Et pendant la durée du parcours, il y a un moment où, d'un côté, le vieux système est complètement déglingué et, par conséquent, n'est plus capable de faire travailler et de nourrir sa population. Et puis, le nouveau système n'est pas encore en place parce qu'il faut du temps pour créer de nouveaux emplois, etc. Et de sorte que, au milieu du passage, il y a une espèce d'espace vide, d'espace de flottement. Et c'est cet espace-là que les gens utilisent pour s'en aller. Très concrètement, moi, je l'ai vu fonctionner en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe ? Le développement, ça commence par la modernisation de l'agriculture. Alors, on modernise l'agriculture et du même coup, on n'a plus besoin d'employer autant de gens sur les champs, sur les terres agricoles pour faire vivre le pays. Alors, ces gens-là, ils s'en vont en ville. parce qu'ils n'ont plus de travail dans l'agriculture. Mais en ville, il n'y a pas encore les emplois qui pourraient les nourrir, qui pourraient les faire vivre, etc. De sorte qu'à ce moment-là, eh bien, ils prennent le chemin de l'exil. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aider le développement. Il faut aider le développement, mais il ne faut pas attendre de ce développement, au moins à court terme, la disparition du problème des migrations. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Ce que je voulais faire apparaître pour conclure, c'est que ce qui me paraît frappant dans, mais pas seulement la politique française, la politique européenne en général en face du problème des migrations, c'est d'une certaine façon que ce n'est pas une politique réaliste. Ce n'est pas une politique qui tient compte de la réalité des choses. La migration dans le monde d'aujourd'hui, c'est un phénomène absolument incontournable. C'est un phénomène absolument incontournable dont il faut prendre acte et dont il faut essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait le rendre profitable pour tout le monde, pour les uns, pour les autres, dans la perspective de la formation des uns, dans la perspective de combler les déficits démographiques des autres. Chacun peut trouver son compte dans une migration bien organisée. Nous sommes très très loin de compte parce que nous sommes complètement encombrés de toutes sortes de fantasmes et d'idées fausses en matière de migration. Et c'est ces fantasmes et ces idées fausses que j'ai essayé de commencer à démonter. Merci de m'avoir écouté de façon aussi patiente.